morning edition from NPR News.
Même si ça ne pique pas aussi.
France Inter, le 18-20.
C'est au Brésil que je vous emmène ce soir où Lula fait son grand retour devant ses partisans ce week-end. Mais est-ce qu'on dit vraiment retour? Il lui reste beaucoup de pages judiciaires à tourner. Il reste aussi à savoir s'il est encore le leader dont la gauche brésilienne a besoin face à Bolsonaro, qui lui aussi d'ailleurs a d'autres soucis. On y vient tout de suite. Le bruit du monde est à Stockholm. Ce soir, qu'est-ce que vous emmeneriez comme livre sur une île déserte? Sacrée question quand on pense qu'il y a 30 000 îles dans l'archipel autour de la capitale suédoise. Le bruit du monde, la suite, c'est sous les radars avec un joueur de foot américain qui veut rejouer sans renoncer à ses idéaux et un panda qui prend l'avion vers Pékin, 18h50. Passons genre dans le monde et Julia Foyles, où il sera question notamment d'une sportive voilée dans une pub allemande, 18h55. Le monde à l'envers et Cyril Sauvageau avec un Donald Trump qui fait surtout plaisir à sa base électorale quand il flatte Israël. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabrice Sintès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Christophe Ventura.
Bonsoir.
Spécialiste d'Amérique latine, directeur de recherche à l'IRIS. Lula est donc sorti de prison. Il a donné le coup d'envoi de sa tournée à venir. Il l'a fait dimanche, il l'a fait dans son bastion, donc dans une vraie marée de partisans. Et pourtant, on a le sentiment quand même d'une sortie un peu à profil bas, pour Lula.
Ben pour l'instant, je crois que Lula a fort à faire parce que, comme vous l'avez dit, déjà sa sortie ne vaut pas pour, disons, libération définitive. Mmh. Il est encore dans un parcours judiciaire très très complexe. Il a plusieurs affaires qui sont encore contre lui. Là, il est libéré pas parce qu'il est innocenté, mais parce que la Cour suprême a cassé un de ses jugements sur le
détention
fait
inconstitutionnelle.
Exactement, ce qu'elle avait auparavant, avant l'élection d'ailleurs, refusé de faire et ce qui avait conduit à son emprisonnement. Là, après l'élection, elle revient là-dessus, ce que lui reproche le juge d'ailleurs, Serge Moreau. Donc, pour l'instant, on en est là. Il n'est pas sur le fond innocenté, il ne peut se présenter à aucune élection. On est suspendu à tout ça. Donc, c'est son premier problème. Le deuxième, c'est que je crois que Lula doit un peu faire le tour des siens aussi, de la gauche brésilienne qui est un peu fragmentée, qui a été cassée par la victoire de Bolsonaro. Il doit un peu faire le tour de tout ça. Et puis, il doit évaluer, je pense, ses capacités, non pas aujourd'hui à redevenir, disons, éventuellement le président du Brésil. Je crois que c'est beaucoup trop tôt pour parler de ça. Et lui-même, je suis pas sûr qu'il soit encore dans cette disposition d'esprit-là. Mais en tout cas, est-il celui qui peut finalement refédérer et reconstruire une opposition large contre Bolsonaro? C'est à ça, je crois, qu'il veut s'employer.
Alors, on y reviendra peut-être point par point. Est-ce que, cela dit, cette libération a bousculé un peu la politique brésilienne depuis cette dernière semaine ou pas?
Ah oui, déjà, ça a eu des impacts. On l'a vu dans les manifestations des pros Lula, on en a parlé à Recife ce week-end dernier, mais on a vu aussi la réaction des partisans plutôt de Bolsonaro qui ont aussi manifesté contre lui. Si on s'en tient à l'étude des enquêtes d'opinion diverses et variées que nous offrent les médias brésiliens, il y a un impact de la sortie de Lula dans le fait qu'il y a une érosion du soutien à Bolsonaro qui est directement indexé à ça, mais aussi du juge Sergio Moro, dont certains prétendent qu'il pourrait remplacer un jour Bolsonaro dans son camp. Et disons, la cote de popularité de soutien à Lula remonte, même si aujourd'hui, elle n'est pas encore majoritaire. Pourquoi? Parce que le Brésil reste polarisé, reste assez fracturé, entre ce Brésil qui est derrière Bolsonaro, qui est hétérogène, mais qui est contre la gauche de Lula, et puis celui qui se reconstitue autour de sa sortie.
On va essayer de voir ce que c'est la popularité de Lula aujourd'hui. Je voudrais qu'on l'écoute, lui, justement, sorti de prison, dans son fief, et prêt à reprendre la lutte. Écoutez-le.
Je n'ai même pas la télé dans mon appartement. Ma vie est complètement bloquée. La seule chose que j'ai, c'est que j'ai une certitude. J'ai encore plus de courage pour lutter que j'en avais quand je suis sorti de là. Lutter pour essayer de récupérer l'orgueil d'être brésilien. Lutter pour que les femmes puissent emmener leurs enfants au supermarché et suffisamment de ressources pour les nourrir. Lutter pour que les travailleurs puissent avoir un emploi régulier et puissent rentrer à la maison à la fin du mois avec de l'argent pour subvenir aux besoins de sa famille.
Alors c'est le Lula qu'on connaît, c'est le Lula qu'on a déjà entendu. En même temps, vous voyez ces images comme moi, c'est aussi un monsieur de 74 ans qui a fait des mois de prison, qui est fatigué, qui est amaigri, qui est vieilli. Est-ce qu'il a pris un coup derrière la tête, Lula, quand même, avec ces semaines, ces mois qui viennent passer?
Ah bah, il est sûr que Lula, comme n'importe quel être humain, aurait souffert de tout ce qui s'est passé, parce que la prison a été, disons, le bout d'un processus par lequel il a déjà souffert beaucoup. Il a perdu sa femme, il a eu des histoires avec ses petits-enfants, enfin, il y a eu l'acharnement médiatique.
Enfin, il est prêt à en épouser une autre, visiblement, assez vite.
Donc il a quand même pris tout ça, et je crois que c'est quelqu'un qui a besoin de renaître aujourd'hui, à 74 ans. C'est vrai que c'est assez, disons, expérimental comme expérience, mais enfin, on vit maintenant dans des sociétés où tout ça arrive et sera le monde de demain aussi, donc il fait partie de ce monde-là. Donc oui, il a été affecté sans aucun doute. Lula considère et clame, comme on vient de l'entendre, son innocence. Ce qu'il veut, c'est que la justice l'innocente. Il ne veut pas que cette affaire-là se termine par des, disons, des artifices ou des questions de procédure. Il veut être innocenté sur le fond. C'est ça que veut Lula. Donc c'est quelqu'un qui est encore dans ce combat-là avant toute chose. Et donc, alors, est-ce qu'il est l'homme du futur? Parce que c'est ça là, qui est la question derrière.
C'est ça. C'est la popularité de Lula aujourd'hui, c'est quoi en fait? Est-ce qu'il peut vraiment réenchanter la gauche, pardon d'utiliser une expression qui est bien à nous, mais est-ce qu'il peut vraiment réenchanter cette gauche brésilienne?
En tout cas, aujourd'hui, pour de bonnes et de mauvaises raisons, il est celui qui peut la re-réunir. Il est le seul aujourd'hui qui a ce rôle. C'est peut-être d'ailleurs un des problèmes, puisque c'est une critique qu'on peut faire. C'est un problème de la gauche brésilienne aujourd'hui, de pas trouver une solution, disons quelque chose qui puisse remplacer l'hégémonie et le leadership de Lula. En tout cas, c'est lui qui a cette capacité-là aujourd'hui. La gauche, elle est fracturée sans être trop compliquée entre, disons, son aile la plus à gauche et puis son aile un peu plus modérée au centre, avec quelqu'un qui s'appelle Ciro Gomes, qui était le troisième homme de la présidentielle, qui a fait 25%, qui aujourd'hui dans les sondages est soutenu par 25% des Brésiliens, et Lula est celui qui peut essayer de le faire. Ensuite, est-ce que ça lui donnera un rôle supplémentaire de réincarner effectivement à l'âge qu'il a l'avenir? On ne le sait pas. En même temps, regardez Bernie Sanders aux États-Unis ou ailleurs, il n'y a pas forcément de lien mécanique entre l'âge et puis le leadership, quoi.
Mais on a l'impression que ce qu'il veut, Lula, et alors on peut le comprendre, en sortant de prison, c'est une vraie confrontation, c'est lui contre Bolsonaro. Mais est-ce que c'est ça la vraie bonne stratégie au fond? Vous parliez tout à l'heure d'une société qui est très polarisée. Est-ce que ça risque pas de polariser encore plus? Est-ce que c'est la bonne stratégie politique de jouer tout contre Bolsonaro?
La difficulté, c'est que Bolsonaro est le premier qui...
De jouer l'homme contre l'homme, même,
Au
fond.
Oui, mais ça revient à ça. Mais il est vrai que, bon, encore une fois, et on l'avait dit ici plusieurs fois, mais ce qui se passe au Brésil, c'est pas une vie politique normale, disons, apaisée. On est dans une crise politique et démocratique qui est ouverte depuis au moins 3 ans dans ce pays, dont Bolsonaro n'est qu'un chapitre qui nouveau. C'est pas la fin de tout ça. Donc, on est dans un pays qui est blessé, qui est polarisé. Ça va être, pour cautériser tout ça, ça va être très lent, très long. C'est un pays aussi qui est confronté à des effets de crise sociale assez importants, avec le chômage, l'informalité, le retour de la pauvreté. Donc quand Lula parle, il parle à ces gens-là.
Il parle à ces gens-là, mais le Brésil auquel il parle aujourd'hui n'a rien à voir avec le Brésil qu'il a porté au pouvoir au début des années 2000. Ce Lula-là, justement, vous parlez de la crise qui est passée par là. Il est arrivé dans un Brésil de boom économique, dans un Brésil qui était plus facile peut-être à redresser qu'aujourd'hui. Et je vais le dire comme ça, est-ce qu'il sait lire ce Brésil-là, Lula, aujourd'hui, en fait?
Je pense que Lula est un homme politique d'un calibre assez exceptionnel, quoi qu'on en pense. Des dirigeants comme ça, il n'y en a pas beaucoup par décennie. Je crois que c'est quelqu'un qui connaît bien son pays.
Bolsonaro, en face, a été élu, on le sait, par une base néolibérale, une base très droitière, parfois même plus que droitière, très raciste aussi, mais enfin, aussi par tout un pan de population qui a fait une espèce de vote de rejet, il y en a marre, donc on y va vers Bolsonaro. Où ils en sont, ces gens-là, selon vous, d'ailleurs, ceux qui sont entre deux, qui pourraient, au fond, rebasculer de l'autre côté? Parce que vous le disiez, Bolsonaro aussi, il y a beaucoup d'ennuis en ce moment. Ils en sont où, ces électeurs-là? Est-ce qu'ils sont prêts à rebasculer de l'autre côté?
C'est possible. Il y a une espèce d'électorat comme ça, un peu liquide, un peu fluctuant, flottant, qui vote plutôt en réaction que par adhésion, qui a voté contre la gauche, le PT en 2018, et qui aujourd'hui, encore d'après les sondages en tout cas, reste globalement derrière Bolsonaro, mais ça s'érode, c'est-à-dire que de nouveau il perd du soutien, et puis surtout il y a eu pendant cette élection un phénomène qui avait été un peu sous-évalué, c'est le nombre de Brésiliens surtout qui n'ont ni voté pour les uns ou pour les autres. Ils sont plus plus de 30 millions au Brésil, à ni vouloir de Bolsonaro, ni de Haddad, c'est-à-dire de Lula et de la gauche. Donc ces gens-là, c'est l'enjeu de demain. C'est grosso modo un enjeu sur les classes moyennes, ce qu'on appelle les classes moyennes vulnérables, qui sont celles qui ont gagné pendant les années 2000 jusqu'aux années 2012-13, jusqu'à la récession économique de 2015-2016 au Brésil, et qui ont commencé à perdre, et qui se retrouvent aujourd'hui quasiment à la trappe à la pauvreté, ou qui ont beaucoup de ressentiments contre les plus pauvres qu'eux, les Noirs au Brésil, etc. C'est eux. Est-ce qu'ils vont aller vers quelque chose qui est plus à gauche, plus, disons, qui cherche des solutions plus sur les questions sociales, ou sur un raidissement sur les questions identitaires, sur les questions de sécuritaires, d'armement, etc., de la population et tout, ça, on ne le sait pas encore. Ça va être un des enjeux des mois qui viennent.
Et alors, Bolsonaro, donc, qui a lâché le parti qu'il a porté au pouvoir, qui est en train de créer une espèce d'alliance pour le Brésil aussi. Donc, on a l'impression que là aussi, il y a quand même des choses qui sont extrêmement mouvantes au fond sous ses pieds. On a l'impression même que les évangélistes qui l'ont porté au pouvoir, ils se sont disputés finalement assez vite, d'ailleurs, entre Bolsonaro et les évangélistes. Donc, lui, sa base à lui, elle ressemble à quoi?
Alors, c'est le problème de Bolsonaro. Bolsonaro est le nom d'un, disons, d'un agglomérat très, très disparate de la société qui s'est constitué en contre, par une colère contre le gouvernement précédent, etc., la corruption et tout ça. Mais c'est un agglomérat hétérogène. Et la difficulté pour...
Et qui n'a pas de majorité, d'ailleurs, y compris élu.
Qui n'a pas de majorité au Parlement. Congrès, au Parlement, même si son parti, qui va devenir son ancien parti, est le deuxième parti après le PT. Vous voyez que c'est compliqué, puisque le Parti des Travailleurs, malgré sa défaite, reste le premier parti au Congrès brésilien. Mais un des problèmes pour Bolsonaro, c'est de maintenir, disons, de manière cohérente, d'avoir une cohésion, disons, de cette alliance qui s'est constituée autour de lui un peu par opportunité et dont il est aujourd'hui le visage. Mais il a quand même une position qui est délicate si on se met à sa place. Il y a une forme de précarité dans son rôle. Mais encore aujourd'hui, à l'heure où on se parle, on peut pas non plus nier qu'une bonne partie de cet ensemble-là, même si ça craquelle, même si on voit ici et là des fractures, etc., reste quand même aujourd'hui à la fois, surtout, opposé à Lula et à la gauche, n'en veut surtout pas, et reste quand même encore aujourd'hui de manière assez significative derrière Bolsonaro.
Qu'est-ce qu'il faut lire de ce qui peut se passer auprès de la Cour suprême autour de Sergio Moro, donc le fameux juge qui a mis Lula en prison, et pas seulement d'ailleurs, mais qui est aujourd'hui ministre de la Justice, dont on l'accuse en gros d'avoir mis Lula en prison pour des raisons politiques, lui et d'autres. Est-ce que ça gêne Bolsonaro, ça, ou au contraire, est-ce que ça galvanise sa base?
Alors, encore une fois, ça polarise. Ça polarise, ça cimente les deux oppositions, les deux antagonismes. Mais en tout cas, aujourd'hui même, à l'heure où on se parle, le président de la Cour suprême a annoncé que la Cour suprême allait juger certainement avant le 19 décembre, la demande de la défense de Lula d'examiner la partialité du juge Moro dans ce jugement. Si la Cour suprême aboutit à la conclusion, en particulier sur la base des éléments qui ont été fournis par The Intercept sur la collusion entre le juge, le procureur et la police dans l'affaire de Lula.
Fameux site web pour situer ceux qui nous écoutent de ce journaliste, Glenn Greenwald, qui est aussi à l'origine de
Edward Snowden.
D'Edward Snowden,
voilà,
exactement.
Qui était ancien journaliste du Guardian en Angleterre. Et sur la base de ces éléments-là, la défense de Lula demande que la Cour suprême, finalement, suspende, c'est le mot qu'elle demande, suspende le juge Moro, parce qu'il aurait été partial dans le jugement qu'a conduit Lula à la prison et à l'impossibilité d'être candidat à la présidentielle, peut-être avant le 19 décembre. Si ça arrivait à la suspension, alors là, ce serait un tremblement de terre, parce que s'il y avait suspension, il y aurait annulation du procès de Lula.
Donc, éligibilité.
Et de nouveau éligibilité pour Lula. Mais ça, on ne le sait pas encore. On le saura certainement, peut-être avant le 19 décembre.
Est-ce que Bolsonaro pourrait abandonner son ministre en rase campagne parce qu'il finirait par lui coller au doigt comme un sparadrap?
Alors, aujourd'hui, Sergio Moro est un peu le préféré de Bolsonaro. Ouais. C'est celui sur lequel il mise pour un peu peut-être prendre le leadership dans une prochaine élection présidentielle. Si on en arrivait, dans des cils, mais si on arrivait à un scénario comme ça, ça deviendrait très difficile pour Bolsonaro de conserver la confiance qu'il a en Sergio Moro si la justice et le tribunal suprême lui-même le désavouaient. Mais attention, M. Bolsonaro et M. Moro essaient d'empêcher que ça arrive, puisque précisément, Sergio Moro demande que ce soit le Congrès qui finalement juge sur la compétence de la Cour à juger de cette chose-là, et non pas la Cour qui juge sur lui.
Vous le disiez, le
sujet.
Le Brésil, comme nul autre pays en Amérique latine et aussi dans le monde, il y a quand même une échéance qu'on a envie de regarder à quelques mois à venir, indépendamment de ces affaires judiciaires et juridiques. Ce sont les élections municipales d'abord, avant les élections de 2022. Qu'est-ce qu'elles nous diront? Quels enseignements elles doivent nous donner, ces municipales?
Bah, on aura certainement un premier élément de réponse intermédiaire sur le rapport de force. Est-ce que Lula a réussi son pari de réunir l'opposition et de la mettre en marche vers une reconstruction et une conquête du pouvoir central, parce que ces élections qui auront lieu le 4 octobre 2020, ça va arriver vite, et elles nous permettront de saisir finalement si le PT renaît un peu, si le parti de Bolsonaro qu'il est en train de lancer va trouver son autonomie, sa place dans un paysage politique brésilien très compliqué, y compris dans son propre camp. On aura une photo quoi intermédiaire, mais si les municipales sanctionnent Bolsonaro et redonnent au PT et à ses alliés un peu d'air, alors là on rentrera dans une dynamique qui pourrait effectivement rebattre les cartes pour 2022, mais bon,
on n'y est pas encore. En tout cas, on a l'impression, en vous écoutant, que le dégagisme à la brésilienne est pas forcément fini. Il passait dans un sens, il peut repasser dans l'autre aussi facilement et aussi rapidement, visiblement.
Oui, tout à fait. Je crois que c'est un peu ce qui vaut partout en Amérique latine d'une manière générale. On a été un peu vite parfois à considérer qu'il y avait la fin d'un cycle politique des gauches, puis un cycle des droites qui revenait. En fait, ce qui se passe en Amérique latine, c'est vraiment, je crois, effectivement, un vent de dégagisme de population. Et encore une fois, j'insiste, beaucoup de ces classes moyennes vulnérables, dont l'OCDE d'ailleurs a récemment pointé le fait qu'elles constituent la catégorie sociale la plus importante désormais en Amérique latine, qui finalement sanctionne les sortants, qu'ils soient d'un camp ou d'un autre, surtout parce que tous ces gens-là voient que les gouvernements et les classes politiques n'arrivent pas à résoudre leurs problèmes concrets au quotidien. Et c'est ça qui nourrit les antagonismes, etc., etc. Et c'est surtout ça qu'on voit en Amérique latine. Et ça, c'est fluctuant par définition.
Et on verra donc la prochaine échéance brésilienne. Vous le disiez donc, s'il y a ce tremblement de terre judiciaire dont vous parlez, Christophe Ventura, merci beaucoup.
Merci.
De votre passage dans le journal.
Le 18-20, Fabienne Saint-Ès, sur France Inter.
La suite ce soir, c'est le bruit du monde à Stockholm avec cette question posée là-bas. Qu'est-ce que vous emporteriez comme livre sur une île déserte, Amélie Perrier? Je vous pose pas la question parce que moi je crois que je saurais pas y répondre non plus. En revanche, comment va le joueur de foot américain Colin Kaepernick?
Lui, il emporte une série dans son île un peu déserte en ce moment, la série Roots, série mythique des années 70. Je vous explique plus tard.
Allez, à tout de suite. Passons genre et Julia Foyce. Julia, vous nous emmenez au musée du vagin à Londres. Pardon, oui forcément, en même temps
évidemment.
Que je dis ça, je me dis bon,
comment dire? Il y en a un qui vient d'ouvrir ses portes. Et bientôt on exposera les deux nôtres, Fabienne, c'est pour nous.
Oui, bien sûr. Le monde à l'envers et Cyril Sauvageau. Cyril, Trump flatte son électorat en même temps qu'Israël.
Eh oui, quand il parle de la reconnaissance, entre guillemets, des colonies israéliennes, effectivement, sa cible, son auditoire, c'est d'abord cette droite conservatrice qui constitue le cœur de son électorat.
Allez, à tout de suite, tout le monde. On n'a pas fini notre petit tour de la planète. Il passe par Boston, chez les Pixies, figurez-vous.
My life for dressed in catfish clothes.
C'est bien le bruit de la mer, le bruit du monde est à Stockholm ce soir avec cette question. Quel livre emporteriez-vous sur une île déserte? Et si Stockholm pose la question, c'est bien parce que la capitale suédoise est entourée d'un archipel immense, 30 000 îles et îlots dont quelques dizaines seulement sont habitées. Alors vous me direz, ces îles ne sont jamais très loin, 2 à 3 heures de la capitale, c'est pas la peine de stocker non plus des bouquins, oui. Sauf que quand la mauvaise saison approche, les bateaux sont moins fréquents, la glace, les tempêtes, tout ça peut couper toutes les communications. C'est pour ça que chaque automne et chaque printemps, un bateau bibliothèque vient desservir l'archipel de Stockholm. Ça dure une semaine et Frédéric Faux nous invite à ce voyage entre les îles.
Sur ce quai du port de Stockholm, c'est l'heure des grandes manœuvres. Le Röd Löga, un ferry de 26 mètres, sert d'habitude à promener des groupes dans l'archipel. Mais toute cette semaine, il va transporter des livres, plus de 3000. Le Bokbåten, ou bateau bibliothèque, se prépare pour son grand voyage sous l'œil vigilant de Maria Handeragen, la bibliothécaire qui coordonne le projet.
Aujourd'hui, nous installons la bibliothèque à bord pour aller visiter 23 îles. On enlève tous les sièges et on installe nos étagères. On fait ça deux fois par an, une tournée au printemps et une autre en automne. Il y a des îles avec seulement une dizaine d'habitants, d'autres avec quelques centaines. Mais on doit offrir aux Suédois la possibilité d'apprendre plus, de devenir citoyens. La bibliothèque est un moyen de leur permettre ça.
Le lendemain, c'est pour le Röd Löga, le premier jour d'une navigation qui va nous conduire du nord au sud de l'archipel, sur 120 km. Alors que nous nous dirigeons vers l'île de Svartsö, le bateau bibliothèque a complètement achevé sa métamorphose.
On a des romans, des essais, des livres d'histoire, de cuisine, on a un peu de tout. Sur cette table, ce sont toutes les nouveautés. Les gens se dirigent toujours en premier vers la table. On essaie toujours qu'elle soit garnie pour que les derniers puissent en avoir aussi.
À bord, l'équipage est au complet, avec 4 autres bibliothécaires, une cuisinière, 2 marins et bien sûr le capitaine. L'archipel, vu depuis le poste de pilotage, est un dédale d'îles dans lequel le Röd Löga se ferait un chemin. Un paysage que Johan connaît par cœur. Mais ici, sur la mer Baltique, il faut toujours être vigilant.
Quand le brouillard arrive, il faut naviguer en étant rivé sur son radar et son GPS. Il y a beaucoup de récifs. On doit rester concentré.
Nous approchons du quai de Svartsö, où une douzaine de personnes nous attendent. Ce sont des retraités, des familles qui travaillent dans le transport maritime ou le tourisme, des enseignants quand il y a une école. À peine leur livre rendu, il est déjà temps d'en emprunter d'autres. Certains lecteurs retirent une commande qu'ils ont faite par Internet. D'autres cherchent dans les rayonnages.
Moi, j'aime les livres qui font peur. Ici, on peut être très isolé, surtout quand l'île est entourée de glace. J'adore lire. C'est le meilleur que je puisse faire quand je suis à la maison.
Quel livre vous allez emprunter, vous, pour l'hiver ?
Je suis aussi une artiste. J'ai appris à travailler avec des écorces et je suis très heureuse d'avoir trouvé un livre sur le sujet.
Quand on vit sur une île, est-ce que c'est vraiment particulièrement important d'avoir un livre, surtout l'hiver ?
Oui, car nous sommes très peu nombreux à vivre ici. Moi, je vis sur l'île et aussi à Stockholm. Je dois passer plusieurs heures dans le bateau, et c'est bien pour lire aussi.
Le Röd Löga offre donc tous les services d'une vraie bibliothèque, avec une particularité. Comme il ne passe que 2 fois par an, les lecteurs ont 6 mois pour finir leurs livres, même si ces derniers, souvent, ne restent pas entre les mêmes mains.
Ce qui se passe souvent dans les îles, c'est qu'on emprunte un livre et qu'on le passe à quelqu'un d'autre. Ça arrive chez le voisin, puis chez un autre, et celui qui a le livre en dernier nous le ramène au bateau au printemps. C'est ce que nous voulons, que les livres circulent.
« Après 1h30 à quai, le Rød Loga s'apprête à repartir. Le voyage est encore loin d'être terminé.
Demain, nous allons à Moya où il y a une école. Donc nous allons être très occupés avec beaucoup de personnes à bord. Ensuite, ce sera Corso, une petite île, mais où cela fait 30 ans que les gens utilisent le bateau bibliothèque. Notre dernier arrêt sera Björkö, où nous allons débarrasser le bateau pendant tout un après-midi. Le bateau retrouvera sa vie normale.
Le prochain passage du bateau bibliothèque dans l'archipel de Stockholm sera fin avril au printemps prochain.
Et bien voilà, d'ici là, lisez sous les couettes. Frédéric Faux, merci beaucoup pour ce joli voyage. Le bruit du monde, la suite, est à aller chercher sous les radars avec Amélie Perrier. Et c'est quoi ça, Amélie? C'est le générique d'une vieille série télé, non?
Ouais, ça s'appelait Roots, c'est une série des années 70. Et la musique, elle est signée Quincy Jones, quand même. Ouais. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est grâce au très médiatique...
Racine, donc, ça a été traduit, je pense.
Oui, Roots, Racine, effectivement. C'est grâce au très médiatique joueur de football américain, Colin Kaepernick, vous allez comprendre. Kaepernick, c'est ce quarterback qui avait refusé de chanter l'hymne américain posant un genou à terre, c'était il y a 3 ans, geste de protestation contre les violences policières infligées aux Noirs. Kaepernick va devenir un emblème de la lutte pour les droits des Noirs et un ennemi juré de Donald Trump qui l'accuse d'antipatriotisme. Depuis 3 ans, Colin Kaepernick n'a pas été recruté. Aucun club de la NFL, la Ligue de football américain, n'a voulu de lui. Ce week-end, il a décidé de convoquer la presse et les clubs pour un entraînement public pour se faire embaucher. Et il a porté un t-shirt marqué de ce nom, Kunta Kinte. C'est le nom du personnage de la série Roots, Racine donc, un jeune Gambien enlevé, déporté en Amérique et réduit en esclavage dans le sud des États-Unis. La série a plus de 40 ans, mais c'est une référence encore. On retrouve Kunta Kinte dans les paroles des rappeurs Kendrick Lamar et Missy Elliott. Quant à Colin Kaepernick, voilà ce qu'il dit à la fin de son entraînement. Je suis prêt depuis 3 ans. J'ai été ignoré depuis 3 ans. On sait tous pourquoi je suis ici aujourd'hui pour cette démonstration publique. On n'a rien à cacher. Nous attendons les 32 propriétaires, les 32 équipes, le commissaire de la NFL, Roger Goodell, qu'ils arrêtent de fuir la vérité, qu'ils arrêtent de fuir le public. Et Kaepernick de répéter qu'il est prêt, archi prêt, qu'il n'attend que de jouer. Ultime pied de nez de cet insoumis, car la NFL lui avait programmé un entraînement en fait à huis clos, filmé pour envoyer la vidéo aux 32 franchises. Kaepernick, une demi-heure avant, a changé le stade et forcé l'ouverture de son entraînement au public et aux médias. Pas question d'être l'esclave de la NFL. On a hâte de savoir maintenant quelle équipe lui proposera un contrat à quelques mois de la présidentielle, car vous l'avez compris, hein, cette histoire de football américain, ça va bien au-delà du sport.
Allez, direction l'Éthiopie avec un vote historique demain.
Un scrutin pour l'ethnie Sidama. Voilà, les Sidama votent demain par référendum pour la création de leur propre région autonome. Ici, vous entendez leur fichier Shambhalala. C'est la fête du Nouvel An chez les Sidama. Mais beaucoup moins festif, l'été dernier, leur territoire a été secoué par des violences qui ont fait plusieurs dizaines de morts. Addis Abeba, le pouvoir central éthiopien, a dû envoyer l'armée et la police fédérale pour rétablir le calme et concéder ce référendum. Les nationalistes Sidama veulent une plus grande autonomie au sein de l'État fédéral éthiopien. Et ce vote pourrait donner des idées à d'autres groupes ethniques. L'Éthiopie en compte plus de 80. Les spécialistes craignent la multiplication des violences intercommunautaires. Au moins une dizaine de groupes ont déjà lancé la même procédure d'autonomie que les Sidama. Un défi de taille pour le Premier ministre, Abiy Ahmed, qui vient de décrocher le prix Nobel de la paix.
Un dernier adieu, un panda star à Washington, Amélie.
Le zoo de Washington a dit bye bye à Bei Bei. Ouais, Bei Bei, c'est le nom du panda adoré par les visiteurs depuis sa naissance là-bas il y a 4 ans. Beaucoup le suivent depuis ses premiers jours grâce à la Panda Cam, une caméra qu'il filme 24 heures sur 24. Mais aujourd'hui, Bei Bei va retrouver la patrie de ses origines, la Chine. C'est l'accord conclu lors du prêt de ses parents pandas aux États-Unis. Vous savez, ce qu'on appelle la diplomatie du panda, comme nous l'explique la chercheuse Liselotte Hodgard au micro de l'AFP.
It's a symbol of, you know, China's history, its benevolence, generosity.
C'est un symbole de l'histoire de la Chine, de sa bienveillance, de sa générosité, etc. Donc, particulièrement en ce moment, on entend beaucoup d'histoires négatives sur la Chine. Ils utilisent le panda pour contrebalancer ça et faire en sorte que le grand public pense du bien de la Chine.
Make the general public think well of China.
Voilà, Bei Bei décolle aujourd'hui de Washington pour Chengdu. 16 heures de vol et ses soigneurs lui ont prévu quelques douceurs pour le voyage. 15 à 20 kilos de bambou, de pommes, de patates douces, du miel et des biscuits. Un menu à l'image de l'histoire très métissée, très diplomatique aussi de Bei Bei.
Un drôle de plateau repas, notre ami
mélanger du bambou
tablette, et qui peut voir des films, Kung Fu Panda et tout pendant le trajet. Un truc de fou. Allez, Amélie Perrier, merci beaucoup.
À demain.
À demain, je vous laisse profiter de Liz Green sur France Inter, When the River Don't Flow.
When it's late, the candles do burn low. Who'll stop this fire when we go? Come on slowly, and who will go out fast? Who will be left here waiting at the last? When it's over, we'll go deep down where the river don't flow. And follow me if you'd care to go deep down where the river don't flow. Who will air the curtains and sweep the pavements? Who'll comb my hair, make the arrangements? Who will write the obits? Who will front the band? Who'll stop the traffic? Who will raise a hand? When it's over, we'll go deep down where the river don't flow. And follow me if you care to go deep down where the river don't flow. I know, so I hope's as hard as Helen, and I hope's as hard as Joe. Someone will still be here to carry home my bones. When it's over, we'll go deep down where the river don't flow. Follow me if you'd care to go deep down where the river don't flow.
Liz Green, When the River Don't Flow, c'est sur France Inter. Allez, place, place, c'est Julia Foyce qui passe.
France Inter. Un jour dans le monde.
Julia Foyce qui, chaque semaine, nous donne des nouvelles des femmes dans le monde et de la planète LGBT. On commence, Julia, avec la vidéo de la semaine.
Elle nous vient d'Allemagne, signalée par notre consoeur Johanna Lucen, correspondante à Berlin pour le journal Libération. Elle est produite par Nike et l'équipementier sportif a décidé d'y mettre les moyens. Les plans sont beaux, la lumière est léchée, la bande-son signée Bowie, le message est presque politique. C'est une certaine idée du sport qu'on défend, plus ouvert, plus inclusif, plus féministe aussi. À l'écran défilent des joueuses de foot, un athlète paralympique, toutes les couleurs de peau, une certaine Zeina Nassar, boxeuse et voilée. Depuis le ring, elle échange un regard et quelques mots avec une spectatrice.
Niemand gibt uns eine Chance.
Personne ne nous donnera notre chance, ça c'est la spectatrice. Mais nous pouvons les battre, répond Zeina Nassar. Pour toujours et pour l'éternité. Ouais, bon, ok, chez Nike, on a rarement fait dans la dentelle ou la sobriété, hein, Fabienne, n'empêche. Ce sont moins les mots qui frappent que le silence qui suit. Pas de tollé sur les réseaux sociaux à la diffusion de la pub, pas de cri d'orfraie face à cette femme qui boxe en hijab, pas de parlementaire qui, dans la foulée, interdirait le voile sur un ring. Non, non, ça glisse tout seul, hein, sans doute parce que le terme de laïcité ne recouvre pas tout à fait la même réalité des deux côtés du Rhin. En Allemagne, l'Église et l'État sont séparés, mais le fait religieux, quel qu'il soit, garde toute sa place dans la vie République. On continue d'ailleurs de l'enseigner à l'école. On peut éventuellement trouver ça un petit peu lourdingue hein, quand on est athée, mais disons qu'en toute logique, du coup, on peut aussi porter le voile hors de la sphère privée sans que ça ne suscite la moindre réaction, à part pour les néo-nazis de Pegida, mais disons qu'ils visent un public de niche. Du coup, pour la majorité des citoyens allemands, aucun problème à ce que Zeyn Anasar prête son visage et son voile à une campagne de pub. La précédente, c'était pour les 70 ans de la Constitution allemande. La boxeuse en incarnait l'article 4, selon lequel le libre exercice du culte est garanti, comme quoi tout est toujours une question d'interprétation, comme quoi la laïcité, c'est un concept élastique comme le plastique. Pardon Fabienne, c'était pour ma transition.
Ah, on enchaîne justement avec l'objet de la semaine qui est donc en plastique.
Eh oui, voilà. Et donc, il s'appelle My Cup Condom, mon préservatif à coupe, littéralement, comme dans coupe de champagne. Fabienne, prenez ce petit disque de plastique souple. Vous l'ajusterez sur le sommet de votre verre. Vous le percerez à l'aide d'une paille et, sans vous mettre la tête dans le caniveau non plus, vous pourrez alors siroter tranquillement votre boisson sans craindre que la fête ne tourne très très court. Après, le vernis à ongles qui, trempé dans le verre, changeait de couleur s'il détectait une substance douteuse, c'est la dernière parade anti-GHB, trouvée cette fois par deux étudiantes new-yorkaises. Ah bah oui, hein, les violeurs ont fait moins les malins quand on veut glisser la petite poupoute dans le verre et qu'elle reste coincée dans la popote, hein ?
Allez. Et puis une idée de balade pour le week-end prochain peut-être.
Partez à Londres, Fabienne, oui. Faire un tour au tout premier musée du vagin, situé dans une ancienne étape du quartier branché de Camden. Le Vagina Museum a ouvert ses portes la semaine dernière entre une boutique de fripes et une autre de souvenirs. Vous y trouverez un parcours à la fois ludique et scientifique sur des questions d'anatomie, d'hygiène, de santé publique et j'en passe. L'idée, c'est de lutter contre les tabous qui pèsent encore sur le sexe féminin. Pour info, par exemple, selon une étude produite en avril par la marque de protection périodique Nana, 6 femmes sur 10 ne savent pas où est leur vulve et 4 sur 10 la trouvent laide. Alors, pour ceux qui se pincent le nez en apprenant la nouvelle, sachez qu'un musée du pénis existe déjà à Reykjavik et je veux bien que vous m'expliquiez en quoi un pénis est plus intéressant qu'un vagin, mais je doute que vous y parveniez. Quant à ceux qui se frotteraient les mains dans la perspective d'une virée grivoise pré-culbute, comment vous dire ? On est plus sur de l'info pédagogique que sur du psycho-érotique. Tout au plus, pourrez-vous repartir avec un souvenir rigolo, un pendentif viva ! La vulva, je vous en offrirai un, Fabienne, c'est promis.
Eh bah chiche. Je serais vraiment curieuse de voir à quoi ça ressemble.
Allez, évidemment.
Julien, merci, à la semaine prochaine.
Fabienne Synthèse, le 18-20.
Le monde à l'envers et Cyril Sauvageau. Ce soir, Cyril, c'est une victoire pour Israël et un coup dur pour les Palestiniens. Les États-Unis ne considèrent plus les colonies israéliennes de Cisjordanie comme contraires au droit international, fermez les guillemets. L'annonce a été faite hier par le secrétaire d'État, Mike Pompeo. Cette annonce marque un tournant dans la doctrine américaine du Proche-Orient depuis 40 ans. Mais pour Donald Trump, c'est d'abord et avant tout une affaire de politique intérieure.
Et oui, c'était déjà le cas pour ses précédentes annonces sur le Proche-Orient, que ce soit le transfert de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, la reconnaissance de la souveraineté israélienne sur le Golan ou encore le retrait américain de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. À chaque fois, il s'agit de donner des gages à la droite évangélique américaine, cette droite ultra-conservatrice très attachée à Israël et très proche de Benjamin Netanyahou. C'est le socle électoral de Donald Trump. En tout cas, c'est une frange non négligeable de ceux qui l'ont élu à la Maison-Blanche en 2016. Plus de 80%. 80% pardon, des évangéliques lui ont donné leur voix. À l'approche de la fin de son mandat, Donald Trump a fait mieux que tenir ses promesses électorales, comme celle très symbolique de déplacer l'ambassade américaine. Il est allé plus loin, il a donné raison à la plupart des revendications d'Israël sur les sujets les plus litigieux. De quoi ravir la droite chrétienne. Le plan de paix pour le Proche-Orient, que doit d'ailleurs dévoiler prochainement le président américain, ressemble de plus en plus à un plan unilatéral en faveur d'Israël.
Et alors cette relation qui est très étroite donc entre la droite conservatrice américaine et Israël ne date pas d'hier, mais les liens semblent s'être encore resserrés ces dernières années.
Des liens aussi bien idéologiques que financiers. Plusieurs centaines de millions de dollars sont versés chaque année par les évangélistes à des fondations israéliennes pour des projets éducatifs ou d'infrastructures, mais également pour favoriser l'émigration des Juifs vers Israël. Chaque année, près d'un tiers de ceux qui font leur alia, qui partent s'installer là-bas, bénéficient de fonds provenant d'organismes évangéliques. Autre phénomène en plein essor, et il est lié, le sionisme chrétien, c'est une sorte de pèlerinage que font chaque année des milliers d'Américains, notamment pour à la fois découvrir la Terre Sainte et travailler dans les colonies comme saisonniers, dans l'agriculture, dans la vigne. Cette tendance venue des États-Unis reste minoritaire, mais elle témoigne de cette grande proximité rivalité idéologique hein, avec les colons de Cisjordanie. Aux États-Unis, le poids des chrétiens conservateurs est en train de prendre le dessus sur celui de la diaspora juive, une communauté qui est quant à elle de plus en plus fracturée entre démocrates et républicains et qui se divise sur l'attitude à adopter vis-à-vis d'Israël et notamment sur la question de la colonisation en Cisjordanie.
En tout cas, Cyril, le timing de cette annonce, évidemment, ne doit rien au hasard, au moment où Donald Trump et Benjamin Netanyahou traversent tous les deux une passe difficile.
Et on est tenté, bien sûr, d'y voir un nouveau petit coup de pouce à Netanyahou de la part du locataire de la Maison Blanche, Bibi englué dans une crise politique qui n'en finit pas. Après de nouvelles élections législatives en septembre, son rival Benny Gantz est en position de former un gouvernement et de lui ravir le pouvoir, mais le temps presse. Gantz n'a jusqu'à demain soir pour trouver une solution. C'est peut-être aussi pour ça que ces annonces arrivent maintenant. Quant à Donald Trump, eh bien, il est sous pression face à la procédure d'impeachment enclenchée par les démocrates et il doit absolument reprendre la main à l'approche de la campagne pour sa réélection. Et quoi de mieux pour ça que de se recentrer sur son électorat. L'arrivée à la Maison Blanche d'une nouvelle proche conseillère, l'ancienne pasteur Paula White, une figure de la droite conservatrice, est un autre signe de cette volonté de Donald Trump de consolider le vote évangéliste aux prochaines élections. Enfin, le calcul est également très politique et très personnel pour quelqu'un d'autre, pour Mike Pompeo, le chef de la diplomatie américaine, parce que lui, il envisage de se lancer dans la course au Sénat, dans l'État dont il est originaire, le Kansas. Or, cet État du Midwest est connu pour être un bastion absolu de la droite chrétienne et du mouvement créationniste aux États-Unis. Et c'est évidemment tout bénef pour Mike Pompeo de lancer sa campagne auréolée d'une aussi belle marque de soutien à Israël.
Voilà, ça s'appelle une tentative gagnant-gagnant. Merci beaucoup Cyril Sauvageau.